Dans un peu plus d'une semaine, nous fêterons la naissance du Christ, un événement unique au monde, à propos duquel Chesterton pouvait dire, au beau milieu de ce brouhaha de fables et de doctrines, une nouvelle prodigieuse se fait entendre qui ne leur ressemble en rien, exceptionnelle et décisive comme la trompette du jugement, elle n'en est pas moins réjouissante, c'est une bonne nouvelle, si bonne même qu'elle paraît incroyable. C'est l'affirmation retentissante que le mystérieux constructeur du monde est venu en personne visiter son œuvre, et que cet être premier et invisible, sujet de tant de réflexions et de légendes, a marché sur la terre réellement et récemment au cœur même de l'histoire. Mais justement, n'est-ce pas trop beau pour être vrai? Qu'y a-t-il d'historique dans le récit évangélique de la naissance du Christ? Quels sont les rapports entre les prophéties dans l'Ancien Testament sur la venue d'un sauveur et ce que rapportent les évangiles de la naissance du Christ? Bonjour à tous, ces questions et d'autres certainement sont celles que nous traiterons aujourd'hui dans ce nouveau Club des Hommes en Noir, le dernier de la saison de cette année 2022 plus exactement. Pour en parler aujourd'hui, pour discuter, pour débattre éventuellement sur ces questions, je reçois l'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs.
Monsieur l'abbé, je vous rappelle que ce sont aussi des téléspectateurs.
Téléspectateurs.
Je reçois aussi le père Jean-François Thomas. Bonjour mon
bonjour,
père.
Bonjour monsieur.
Merci de votre présence. Madame Jeanne Smith.
Qui n'est pas un homme en noir, mais ravi d'être
mais
là.
Qui a fait de vrais progrès.
Ravi de retrouver sur le noir. Vous-même et évidemment les spectateurs.
Merci, chère Jeanne. Et nous recevons, il a bien voulu se prêter à cet exercice de fin d'année. Merci beaucoup, cher Olivier Figueras, de votre présence.
Merci, cher Philippe Maxence. Et ouais, merci aux téléspectateurs de
des échanges de politesse. Alors, madame, messieurs, les chrétiens sont-ils des naïfs de croire à toutes ces falaises sur la naissance du Christ, sur...
Si ce sont des fadaises, ils sont naïfs.
Olivier Figueras a pris la parole.
La question est de savoir si ce sont des fadaises.
Alors, sont-ce des fadaises, mon père?
Nous parlons ici de l'histoire. Donc, l'histoire en général comporte aussi, pas simplement l'histoire sainte, mais comporte aussi des aspects qui sont plus mystérieux. Et qu'il est bien difficile de prouver avec des preuves absolument concrètes. Parler de la science historique, par exemple, c'est quand même parfois un peu osé.
Le concept de science historique, vous voulez dire?
Oui, parce que même pour des personnages qui sont très récents, il est souvent difficile de retracer totalement, de façon véridique, son parcours, sa vie. Tout cela est sujet à discussion. Très, très bizarrement, en ce qui concerne l'histoire sainte, il semble qu'on applique des critères qui sont beaucoup plus exigeants que pour le reste de l'histoire, alors que non, ça fait partie ô combien de l'histoire, et c'est même le sommet de l'histoire.
Alors que ce soit le sommet de l'histoire, je suis bien d'accord avec vous, mais en même temps, on pourrait retourner votre argument, c'est-à-dire que s'il est difficile déjà d'établir pour un personnage contemporain, ou assez peu lointain en tous les cas, toute la réalité de son existence, il est encore plus difficile de le faire pour quelqu'un dont la naissance remonte à plus de 2000 ans.
Oui, alors je n'essayais pas de... C'est plutôt l'inverse, en fait, que je voulais dire. Voyez,
oui, donc, ça j'ai bien compris, mais...
Voilà, ce n'est pas plus difficile pour la vie de Jésus-Christ que pour la vie des autres personnes, des autres personnages historiques. Aujourd'hui, on ne rencontre plus, contrairement au XIXe siècle, de personnes qui essayaient de remettre en cause l'existence même de Jésus. Alors, il semble que cela redevienne un peu à la mode dans certains milieux. Mais quoi qu'il en soit, c'est tout à fait minoritaire. Ensuite, bien évidemment, si on prend la lettre des textes des Saintes Écritures, des Évangiles, par exemple, est-ce qu'on va pouvoir prouver dans le détail que tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures s'est réellement passé? On ne pourra jamais le prouver, mais ça ne signifie pas que cela ne soit pas arrivé.
Je dirais, puisqu'on parle de la science historique, personne ne remet en cause l'existence de Cicéron, qui a vécu plusieurs siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons que les premiers manuscrits que nous avons actuellement de Cicéron datent du Xe siècle. n'est-ce pas ? Les manuscrits, les premiers manuscrits que nous avons sur les évangiles datent du 1er siècle ou au début du 2e siècle. Donc on est déjà à une proximité et, un volume d'arguments historiques beaucoup plus fort que pour un Cicéron dont personne ne met en cause ni la personne, l'existence, ni les textes, n'est-ce pas ?
Ni l'influence.
Donc, voilà, ni l'influence. Donc replaçons, si on parle vraiment de l'enracinement de la Sainte Écriture et notamment du Nouveau Testament, nous avons des preuves extrêmement nombreuses, extrêmement proches, extrêmement puissantes.
Vous voulez dire que, pardon, je vous interromps, mais vous voulez dire que comme document,
c'est beaucoup plus sérieux.
Les récits évangéliques sont
bah, beaucoup plus attestés que les textes de Cicéron. Ça,
est-ce qu'on peut les considérer comme des documents historiques, justement ? C'est un peu toute la question.
Alors après, si je puis me permettre, puisque vous avez fait une lecture, à moi de faire une lecture, M. Maxence,
juste
quelques mots de Pie XII en 1950 dans Humanae Generis. Il parle de la Genèse, mais je pense qu'on peut l'appliquer également au récit de l'enfance du Christ. Il dit... Ces textes, quoiqu'ils ne répondent pas de façon rigoureuse au concept de l'histoire qui fut celui des grands historiens grecs et latins ou qui est celui des maîtres de notre temps. Ces textes, donc, ce n'est pas exactement de l'histoire dans le sens classique. Toutefois, appartiennent en un sens véritable, que les exégètes devront encore explorer et établir, au genre historique. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'effectivement, les évangiles ne sont pas au sens propre un récit de la vie du Christ complet. Ils ne prétendent pas dire toute la vie du Christ. Ils ont rassemblé un certain nombre d'épisodes réels qui vont susciter la foi, hein, puisque c'est le fruit d'une prédication de la foi. Donc, effectivement, tous les éléments ne sont pas présents parce que les évangélistes n'ont gardé que ceux qui étaient pertinents. Et ce sont des textes à vocation religieuse. Donc, effectivement, ils sont, par exemple, mis en rapport avec des prophéties. Mais le fond, comme ils disent, ils appartiennent toutefois en un sens véritable au genre historique. C'est-à-dire que réellement, ces récits sont historiques, même si ce n'est pas de l'histoire, comme nous disons techniquement, telle que nous la faisons de façon strictement similaire.
Ou alors, si on peut inverser un peu la proposition, tout ce que rapportent les évangiles sont historiques, mais ils ne rapportent pas tout de l'histoire.
Ils ne rapportent pas tout de l'histoire, et par ailleurs, la façon dont ils le racontent n'est pas exactement
la
façon...
Ce n'est pas la méthode historique.
Voilà, de façon dont nous ferions de l'histoire aujourd'hui. Encore que, hein, pour en revenir à ce que disait le père Thomas, Émile Poula notait qu'un discours d'Albert Demain, c'est après 1870, un discours d'Albert Demain qui a été reproduit dans la presse, il est impossible de retrouver son intitulé exact, parce que même en faisant des recherches à travers les récits des journaux, etc., pourtant c'est quelque chose de proche, etc. Donc là, nous avons des récits qui sont très bien attestés, avec beaucoup de manuscrits extrêmement récents, extrêmement proches de l'événement, mais effectivement, les évangélistes n'ont pas l'intention de tout raconter. Ils le font dans une perspective religieuse, ils rapprochent un certain nombre de choses de prophéties, etc. Et puis, ils ont une façon d'écrire ou une façon de penser qui est celle de leur temps, de leur milieu, de leur culture, qui n'est pas forcément la nôtre. Moi, parfois, il y a des raisonnements proposés par notre Seigneur Jésus-Christ dont je ne comprends pas exactement, et qui pour les Juifs étaient très clairs. Pour les Juifs, c'est très clair, parce que dans leur culture, si vous voulez, ce type de raisonnement fonctionnait parfaitement. Moi, qui suis un occidental post-aristotélicien, j'ai du mal parfois à comprendre comment la preuve aboutit, mais autant...
Par exemple, l'avenue des bergers auprès de la Sainte Famille...
Je vois pas trop le problème.
Est-ce que c'est juste un élément...
Champêtre,
voilà, d'agrément que éventuellement les auteurs des évangiles ont ajouté, ou est-ce qu'on peut, on se dit vraiment, puisque ça a pris toute une symbolique aussi dans notre vie chrétienne, donc est-ce que c'est un symbole, est-ce que c'est une réalité historique sur laquelle on peut s'appuyer, ou est-ce que c'est une fausse question ?
Alors de plus en plus, il semble bien tout de même que, en ce qui concerne la Terre Sainte, l'archéologie maintenant donne la main à la tradition. Et éclaire la tradition. Et en ce qui concerne le champ des bergers, on sait très bien qu'à l'époque, en effet, il y avait des bergers tout autour de Bethléem. On en a retrouvé les traces. Et ensuite, on a retrouvé par l'archéologie les traces de lieux de culte très très anciens, des tout premiers siècles, dans ces champs de bergers. Il y en avait plusieurs. Donc cela n'a rien d'aberrant. Pour revenir à ce que disait M. l'abbé, les évangélistes, en effet, ne rapportent pas tout. D'ailleurs, saint Jean le dit à la fin de son évangile. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, contrairement à d'autres historiens qui travaillent uniquement sur des sources qui sont de seconde main, les évangélistes sont soit des témoins directs, soit des personnes qui écrivent, évidemment, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais avec des informations qui proviennent de témoins directs. Donc on a là une histoire qui, à mon avis, est plus sérieuse que bien des histoires écrites aujourd'hui par des historiens qui veulent faire œuvre justement de science historique, mais qui n'utilisent que des matériaux auxquels ils n'ont absolument pas accès directement.
Alors je reviendrai sur les témoins directs, mais Jeanne voulait prendre la parole.
Oui, Smith. Les évangélistes, pour la plupart, trois d'entre eux en tout cas, meurent martyrs pour rendre témoignage de ce qu'ils ont écrit. Ils ont vu le Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec, par exemple, le Suaire de Turin, on a un élément matériel de cette époque. On a une indication qu'il s'est passé un événement qu'on ne comprend pas, à un homme crucifié, etc. Et donc, nous sommes dans le registre totalement du témoignage, comme vous le disiez, Père Thomas, avec l'évangile de l'enfance de notre Seigneur, écrit par saint Luc, est écrit par celui qui a été au contact de la Vierge, Marie. Et le témoignage que nous lisons est le sien. Ça me paraît totalement évident.
Le sien, celui de la Vierge, je voulais dire.
Celui de la Vierge Marie. Elle raconte ce qu'elle a vécu. Elle a gardé tout ça dans son cœur, cela nous est dit. Elle a gardé chaque mot, chaque expression, chaque souvenir. Elle est la mémoire de l'Église à ce moment-là, enfin de l'Église naissante. Et elle raconte comment elle a reçu l'Annonciation, et elle donne ce détail incroyable. Elle dit que l'ange lui annonce la naissance du Christ à elle, qui est fiancée, donc elle est destinée à se marier. Et elle lui dit, mais comment cela va-t-il être possible? Comment est-ce possible? Ben, il n'y avait rien de plus possible dans son état. Or, elle dit, ça n'est pas possible. Donc, on a cet élément de la virginité. Il y a un autre élément qui m'a frappé dans le récit de la naissance du Sauveur dans une grotte où ne se trouvent que Joseph et Marie, une grotte où il n'y a rien. Et c'est Marie qui entoure l'enfant de l'ange. Pour avoir accouché plusieurs fois, je peux vous dire que ça n'est pas la chose que j'aurais été capable de faire après avoir
ça,
accouché.
Ça, c'est un témoignage.
Je n'en aurais
pas. Qu'aucun d'entre nous ne peut.
Bien sûr.
Ne peut
mais c'est elle. Et elle donne ce détail qui semble donner vraiment incidemment. Et pour moi, il est extrêmement profond. On voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette naissance. Et à chaque étape, elle donne, c'est elle, pour moi, qui donne le récit. Et c'est un récit qui emporte tellement la conviction des évangélistes et des premiers chrétiens qui sont prêts à mourir pour ça. Donc je pense qu'on est vraiment dans le registre du témoin devant le juge.
Mais justement, le Père Thomas parlait de témoignages directs. Mmh. Vous avez développé un peu ce thème, mais au moment de la naissance du Christ, les témoins directs
ne sont que deux.
Mais, on peut ajouter l'âne et le bœuf, éventuellement, mais ils parleront peu, sauf par miracle.
Qui ne sont pas évangéliques. L'âne et le bœuf ne sont pas évangéliques.
Mais ils sont dans l'Ancien Testament.
Je vais quand même essayer de finir. Le problème, c'est que ce sont des protagonistes même de cette histoire qui sont les témoins. Vous êtes journaliste, et on aime bien recouper les informations par d'autres sources.
Mais c'est pour ça que j'ai parlé du Suaire, par exemple, du Saint-Suaire.
Oui, mais sur lequel il y a aussi beaucoup de discussions.
Il y a beaucoup de choses, mais je veux dire,
sur sa datation, justement.
Certes, mais il y a beaucoup d'éléments quand même convergents, et il y a ce témoignage lourd qui est celui de gens qui sont prêts à mourir.
Pardon de ce que je veux dire, mais on pourrait dire que la mère même de Jésus a amplifié, magnifié, donner une touche poétique peut-être
C'est sûr que c'est poétique, mais dans un autre sens, c'est extrêmement sobre. Je veux dire qu'on aurait pu imaginer des récits comme les évangiles apocryphes d'ailleurs, où le merveilleux est constamment présent. Il y a très peu de merveilleux dans ce récit. Il y a juste l'explosion de la voix des anges.
Ou le merveilleux est dans les détails que vous avez signalés.
Mais qui n'est pas un merveilleux spectaculaire ou sensationnel. Oui. Au contraire, tout est dans une très très grande retenue. Et je pense que c'est un élément qui peut retenir notre attention.
Qui prêche en la faveur.
Oui.
Olivier Figuard, vous vouliez intervenir. Je ne vais pas vous couper la parole dès le début.
Merci. Je pensais à la question de la véracité. Jusqu'à une époque encore récente, une tradition orale était reçue comme une preuve suffisante de la véracité d'un événement. J'ai, pour des raisons personnelles, fait des recherches familiales. Jusqu'à ce qu'on arrive à moi, les questions de savoir si telle et telle personne appartiennent à la famille m'ont été données par mes parents, puis par mes grands-parents, et ça ne pose pas de problème. Et aujourd'hui, il faut prouver, il faut arriver et dire « mais oui, mais vous avez un document pour le dire ». Or, la véracité des évangiles, c'est la même chose. Il y a une tradition qui s'est, en dehors des textes des évangiles même, il y a une tradition qui se répète de génération en génération. D'ailleurs, nous recevons la plupart du temps la foi par le récit que nous en font nos parents plutôt que par la lecture directe des évangiles au départ. C'est pas la première chose, surtout chez le catholique, d'aller lire les évangiles. C'est pas le premier point de départ. C'est maman qui vous raconte que le petit Jésus est né dans la crèche. Et c'est crédible et c'est cru. Donc c'est vrai.
C'est bien, vous avez cru votre maman. J'en suis très heureux.
Merci. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui un rejet de ce qui paraît peu vrai, parce qu'on n'a pas de preuves tangible à poser, mais à ce moment-là, on va remettre en cause des pans entiers de l'histoire universelle.
Bien sûr, oui. Non, mais cette apologie de la tradition orale est tout à fait juste.
Voilà. Vous dites effectivement que l'unique témoin survivant, donc la Bienheureuse Vierge Marie, au moment où Saint-Luc raconte...
Je sens que je vais en prendre...
Voilà, mais je veux dire, donc, ce pourrait être remis en cause. Mais d'abord... Disons bien que ces récits ne sont qu'une toute petite partie de l'Évangile et que l'Évangile lui-même a été vu, enfin, je veux dire, la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, qui occupe l'essentiel de l'Évangile pendant les 3 ans de sa vie publique puis de sa passion, a été vu par des milliers de personnes et les évangélistes écrivent au temps où ces personnes sont encore vivantes et auraient contesté vigoureusement si ce n'avait pas été exact. Donc, ce qui fait que l'ensemble de l'Évangile crédibilise ce récit de l'unique témoin. Et également, comme a dit Jan Smith, et là je suis entièrement d'accord, c'est il y a quelques éléments de merveilleux, mais extrêmement humbles, extrêmement modestes. Même les mages, si vous voulez, nous les mettons, c'est des rois mages, etc. Mais en fait, c'est très modeste, ils arrivent, ils demandent où est né le roi des Juifs, ils vont le voir, ils donnent des cadeaux, et ils repartent en douce. Donc ce n'est pas, si vous voulez, grandiose. Alors il y a le chant des anges. Il y a le chant des anges, mais le chant des anges n'est pas rapporté comme ayant bouleversé les populations environnantes. Et le chant des anges est une chose, enfin, je veux dire, l'intervention des anges dans la Sainte Écriture est un grand classique, n'est pas une chose extraordinaire dans le sens qu'elle serait qu'on n'en aurait jamais vu. Il y a des interventions des anges très, très régulières au cours de l'histoire sainte. Donc, effectivement, par rapport à des vies, par exemple, d'Apollonius de Tyane, n'est-ce pas, une vie qui a été faite dans les premiers siècles après Jésus-Christ, pour faire pièce aux évangiles. Là, vous avez autour des naissances des faits extraordinaires, mirobolants, ou bien dans les évangiles apocryphes. Ce n'est pas le cas dans les évangiles canoniques, dans lesquels une grande sobriété règne, et encore une fois, ne sont relatés que des faits qui vont manifester, si vous voulez, le sens salvifique de cette naissance. En réalité, la remise en cause de ce genre de récit a un fondement très clair, le refus total du surnaturel. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on refuse totalement le surnaturel, on ne les croit pas. Mais sinon, ils sont quand même, c'est quand même, encore une fois, bien attesté au point de vue des manuscrits, au point de vue de la proximité des manuscrits. Et encore une fois, Cicéron ou Aristote, ce sont des manuscrits extrêmement tardifs. étonnamment tardif par rapport à... Parce que les manuscrits originaux ont été perdus et que c'est des copies des moines du Xe siècle.
J'ai envie de dire, on remet même en cause l'existence de Shakespeare. Et on dit que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, mais sous le nom de Shakespeare. Enfin bref, on arrive à des remises en cause qui sont sans doute intellectuellement plaisantes, mais qui ne correspondent pas à grand-chose.
D'un autre point de vue, est-ce que le père Thomas, le récit évangélique, vérifie les prophéties de l'Ancien Testament sur la naissance du Sauveur d'Israël ?
Alors, il y a souvent un contresens qui est fait aujourd'hui, à savoir que c'est dans la mode de l'exégèse contemporaine de considérer que c'est l'Ancien Testament qui éclaire le Nouveau Testament, alors que c'est l'inverse dans la tradition chrétienne. C'est par le Nouveau Testament qu'on peut comprendre l'Ancien Testament. Sinon, l'Ancien Testament en tant que tel, c'est en effet une révélation, mais qui, pour beaucoup d'aspects, demeure totalement close, tellement elle est mystérieuse, avec des formulations, en effet, qui nous sont étrangères. C'est uniquement par le Nouveau Testament qu'on peut comprendre certaines choses de l'Ancien Testament. Et donc, c'est bien le cas pour les récits de l'enfance, notamment de Jésus. Ce sont ces récits de l'enfance qui vont nous faire comprendre certaines formulations des prophètes, notamment d'Isaïe. Et à ce moment-là, c'est vraiment le déchirement de la révélation dans sa totalité. Le propre des fausses révélations, c'est toujours d'être très bavarde. Le propre de la révélation, en effet, c'est toujours la sobriété et d'être peu disert, en fait.
Et pourquoi cette sobriété, justement, alors que l'homme a besoin de saisir, a besoin de comprendre
on le voit bien aussi dans tous les récits évangéliques. Enfin, notre Seigneur n'est pas un bavard. Il dit exactement ce qu'il doit dire, pas un mot de trop. Contrairement ensuite à ce qu'on va trouver dans un certain nombre d'évangiles apocryphes, par exemple, où là, tout le mystérieux qu'on peut appeler à la rescousse est accumulé. Non, notre Seigneur se contente de peu de mots, justement parce qu'il est le Verbe. Donc, il n'a pas besoin d'utiliser de grands discours, même quand on voit bien dans sa prédication publique, ce ne sont pas les discours de Staline ou de... qui durait des heures et des heures. Donc, je trouve qu'un bon signe, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui l'archéologie va plutôt dans le sens de la tradition évangélique, un bon signe, c'est quand il n'y a pas trop d'informations qui sont données. Et l'archéologie actuelle se contente de ces quelques notes qui sont à notre disposition pour en fait... découvrir des choses qui sont incroyables.
Je reviens sur ce que vous disiez, c'est finalement donc les évangiles qui éclairent l'Ancien Testament. Pourtant, l'Église nous fait lire justement les prophéties.
Oui, mais elle nous fait
pour
pas
nous préparer à cet événement
tout à fait.
Que nous allons célébrer.
Bien sûr, mais ces prophéties, on ne les comprend justement que au moment où on est dans la contemplation du mystère de l'incarnation qui s'est révélé. Auparavant, vous lisez les prophéties, si vous... Évidemment, pour nous, c'est un peu biaisé, puisqu'on connaît également la suite.
On connaît la fin.
On connaît la fin. Et pour une personne qui ne connaît pas la fin, vous lisez les prophéties, vous ne comprenez pas ce que cela signifie.
Oui, c'est un peu propre d'une prophétie, d'ailleurs, souvent.
Ce qui a été la difficulté des Juifs au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils exploitaient un certain nombre de prophéties réelles, effectives, En oubliant d'autres, parce qu'ici, il est très difficile, si vous voulez. En réalité, voilà, la prophétie, c'est quelque chose qui désigne ce qui va se passer, mais qu'on ne comprend parfaitement que quand l'événement est arrivé. Et à ce moment-là, on revient sur la prophétie, on dit, la prophétie, effectivement, nous avait guidés dans ce sens-là. Mais les malheureux juifs, ils avaient, par exemple, très bien vu les prophéties de gloire, du Messie glorieux, et ils avaient moins vu... En tout cas, un certain nombre d'entre eux, les prophéties du serviteur souffrant, etc. La Bienheureuse Vierge Marie, il est clair, si vous voulez, que la Bienheureuse Vierge Marie, dans tous ses récits de l'enfance, elle sait, pour le serviteur souffrant, elle sait que son fils va souffrir, si vous voulez, que ça ne va pas être le roi glorieux, etc. Et ça va être conforté par la prophétie de Siméon, un glaive vous transpercera, etc. Mais effectivement, je dirais, il y a une sobriété aussi dans la façon dont notre Seigneur se présente, pour que l'homme se mette en marche, Si on vous assomme de choses, ben vous recevez et vous êtes très passif. Dans la mesure où il y a effectivement un aspect de mystère, parce que ces paroles sont d'une densité incroyable, mais que il faut, pour les pénétrer, il faut entrer dedans avec beaucoup d'écoute, etc. À ce moment-là, l'homme se met en marche. Et nous avons plusieurs fois par an le récit de l'Annonciation, un récit extrêmement court de quelques phrases qui est d'une densité et d'une richesse que l'on peut toujours contempler, alors qu'une chose bavarde, ben on aurait soupé très rapidement. Donc je pense que c'est effectivement la pédagogie divine. Comme dit Saint Grégoire le Grand, à un moment, il dit « Celui qui pense avoir compris le mystère divin, ça prouve qu'il s'est juste trompé. » Voilà.
Alors est-ce que cette sobriété et cette pédagogie, elle est là finalement pour nous conduire à l'acte de foi, au renouvellement de l'acte de foi sur l'événement contemporain.
Voilà. Encore une fois, les récits évangéliques sont historiques, mais ils ne prétendent pas faire de l'histoire pure. Ils sont un choix des événements historiques de la vie du Christ, éclairés par les prophéties et par l'Ancien Testament, pour nous amener à la réponse de foi. C'est une prédication, les évangéliques, c'est une prédication, n'est-ce pas? Et donc, ils réalisent effectivement la bonne nouvelle, ils annoncent la bonne nouvelle. Et donc, effectivement, le but, c'est une réponse de foi. Et donc, lorsque nous lisons les évangiles, alors bien sûr, nous pouvons les lire à un moment où nous faisons de l'exégèse, alors nous arrêtons sur telle chose que nous allons essayer de bien situer, de bien comprendre, pourquoi pas. Mais d'abord et avant tout, nous devons les lire dans un esprit de foi et dans un esprit de recevoir le mystère divin qu'ils transmettent.
Jeanne Smith?
Oui, en vous écoutant, monsieur l'abbé, je me faisais la réflexion. Nous faisons tous des crèches à Noël, et même aujourd'hui encore, dans certains petits villages de France, on voit de grandes crèches. Elles sont toujours pareilles. Bien sûr, elles varient selon les pays. Il y a des caractéristiques physiques et des personnages qui changent. Mais c'est toujours dans la simplicité de la scène de Noël. On n'y touche pas. Il y a la Vierge, la Sainte Vierge, Saint-Joseph, l'enfant Jésus, les anges, les bergers, les mages. Après, on en ajoute éventuellement les personnages qui nous représentent, nous, auprès de la crèche. Mais il n'y a rien, et c'est totalement merveilleux, mais c'est totalement sobre. Et d'une certaine façon, cette habitude de faire des crèches répond au récit évangélique et fait que chaque petit catholique qui est devant cette image la voit imprimée dans son cœur avec en image comme il peut la lire ou l'entendre, et il me semble que c'est totalement dans l'axe de cette pédagogie qui donne quelques touches et qui nous incite à réfléchir ensuite. Enfin, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose dans votre esprit, mais il me semble qu'il est très important, justement, dans nos familles, d'avoir des crèches pour nos enfants, et pour nous-mêmes.
Oui, pour nous-mêmes. Olivier Fillard, vous vouliez intervenir aussi.
Oui, à propos de cette sobriété, qui d'ailleurs est un terme tellement à la mode que personne ne devrait remettre en cause celle de l'Évangile, mais enfin...
En plus, il faisait froid à Bethléem.
En plus, il ne devait pas faire 19 degrés. Je pensais que... il me paraît, en dehors de tout ce qui a été dit jusqu'ici, d'un point de vue psychologique, il me paraît évident que la sobriété est la meilleure manière de présenter quelque chose d'extraordinaire. Si l'écrin est trop beau, on ne fait plus attention à la perle. Il y a quelque chose dans la psychologie humaine qui fait qu'on va tout de suite à ce qui vous attire immédiatement, et donc il faut déblayer le chemin. Il faut déblayer le chemin pour accéder à ce qui est l'essence même du mystère.
Vous parliez de la crèche et des personnages.
Inventée au XIIIe siècle, hein, au temps de Saint François d'Assise.
Oui, la crèche elle-même, oui.
Voilà, la représentation crèche, ce sont les franciscains.
Ça date et où il y a le vrai Jésus dans les mains de Saint François. Voilà.
Mais justement, quels sont les apports des évangiles apocryphes dont on parlait tout à l'heure? Qui ont, à côté de cette sobriété évangélique, vous avez tous souligné, dans nos crèches, il y a un certain nombre de personnages qui sont dus plutôt aux évangiles apocryphes.
Voilà, il y a l'âne et le bœuf qui viennent des prophéties, hein, qui viennent de l'Ancien Testament, mais après...
Donc ils ne sont pas apocryphes de ce point de vue-là.
Non, qui ne sont pas apocryphes. Mais après, qu'il y ait il y a, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a dans la crèche provinciale, il y a le FADA, il y a le Rémouleur.
Non, mais je ne parlais pas de cela.
Comme dit Jean-Cis, qui nous représente, nous. Plus, moi, je suis plutôt du côté du FADA. Mais,
et donc, pas trop le dire.
Après, il y a des détails, mais ce sont des détails que j'appellerais iconographiques. C'est des détails qui ont été retenus. Comme ayant du sens et comme étant porteur de réflexion. Mais la crèche, ce n'est pas la même chose que l'évangile. La crèche est une invention humaine pour...
C'est un moyen, en fait.
Voilà, c'est un moyen. Ma foi, s'il y a quelques éléments apocryphes, par exemple, au sens propre, je ne crois pas qu'il soit dit que ça soit dans une grotte. Hein, c'est dans une étable.
C'était l'autre question que j'avais posée.
C'est dans une étable. Bon, voilà. Mais nous l'avons représenté sous forme de grotte, etc. Bon, pourquoi pas? Effectivement, je dirais, est-ce que... Bon, ça ne porte pas à conséquence, puisque ce qui nous est lu à l'Église, c'est le récit évangélique, c'est pas ce qu'on... Voilà, ce n'est pas ce que nous voyons techniquement pour quelques détails dans la crèche. Outre que maintenant, on met des lumières, des guirlandes. Hein, donc voilà, ce n'est pas non plus dans l'évangile, je le précise.
Mais est-ce que cette étape n'était-elle pas dans une grotte?
Alors le premier qui parle, Père en fait, Thomas. Qui parle d'une grotte, c'est Saint Justin en 160. C'est le premier qui mentionne une grotte. Et justement... Alors, vous allez dire que je suis un peu obsédé par l'archéologie,
non, je ne le permettrai pas.
Mais les archéologues, maintenant, avec les fouilles qui ont pu être faites, justement, dans la grotte de Bethléem, donc avec cette magnifique basilique construite par-dessus, montrent que ce qu'a dit Saint Justin remontait à une tradition qui était plus ancienne. Donc, une étable, les grottes étaient des étables à Bethléem. Et... toutes les grottes ont servi d'étables. Et là aussi, les fouilles archéologiques le prouvent. Et à une époque beaucoup plus ancienne, évidemment, que la naissance de Jésus. Tout à l'heure, monsieur l'abbé, vous avez parlé du FADA qui est dans la crèche provençale. Alors, il n'y a pas le FADA, il y a le RAVI.
Voilà.
Donc, vous êtes plutôt le RAVI, ce qui est quand même un peu plus positif. Oui.
Merci de ces précisions, Père.
Oui, mais finalement, nous mettons chacun dans nos crèches les santons qui nous semblent être les plus proches de nous pour nous rapprocher justement du cœur de la crèche.
Nous sommes les bergers, oui.
Parce que là aussi, dans la dynamique de la crèche où on fait avancer, les enfants font avancer, les personnages, etc., là aussi, c'est pour entrer dans le mystère, c'est pour entrer, comme disait Jasmine, il s'agit de se mettre devant la crèche et de contempler, de méditer, de recevoir ce grand message que notre Seigneur nous adresse. Donc, effectivement, on va user de petites choses pédagogiques ou, encore une fois, de traditions bien fondées, comme vous dites, de la grotte qui remonte très tôt, finalement, comme étant... Mais les évangiles ont été encore plus sobres que la réalité, si vous voulez. Ils n'ont pas dit une grotte, ils ont dit juste une étable. Bon, une étable qui est dans une grotte, c'est attesté très tôt, si vous voulez. Mais voilà, c'est extrêmement sobre. Et après, nous mettons un petit peu en scène pour aider notre méditation, tout simplement.
Et j'ai envie de dire, c'est pleinement catholique. Smith. Parce qu'à l'église, quand vous allez à la crèche, il y a souvent un ange avec une petite boîte pour la quête. Donc, ouais. C'est garanti.
L'église ne perd pas le nord.
L'église ne perd, oui, exactement. Merci.
À notre Dame de Consolation, nous avons l'ange quêteur.
Et quelle que soit l'époque, pour le coup.
Quelle que soit l'époque. Je voudrais passer à un autre événement qu'on va célébrer dans la semaine de Noël, c'est le massacre des innocents. Où on a l'impression qu'il y a énormément de... Le Père Thomas hoche de la tête mais énormément d'enfants qui sont tués. Est-ce qu'il y a et là encore, vous allez dire que je suis vraiment obsédé par l'histoire, au sens moderne du terme, en tous les cas. Est-ce qu'il y a des traces hors les évangiles de ce massacre des innocents? Le Père Thomas sourit, donc je lui donne la parole.
Oui. En fait, il n'y a aucune trace historique d'un massacre des enfants de Bethléem qui seraient nés au même moment que notre Seigneur. Et les enfants qui seraient nés au même moment que notre Seigneur, c'était peut-être une dizaine ou une douzaine. Donc quand il y a massacre des innocents, ce sont ces enfants-là. En revanche, quand on regarde la personnalité, alors historiquement la personnalité d'Hérode le Grand, Hérode le Grand c'était un homme qui était, alors certes magnifique, mais c'était un homme très cruel. Il a tué quand même... il a fait décapiter une de ses femmes, son frère, deux de ses fils, sa belle-mère. Alors là, il avait peut-être des circonstances atténuantes, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, bon, c'est un homme qui fait verser le sang très facilement. Donc on peut très bien imaginer, en effet, mais imaginer de façon très réelle que...
Mais là, on passe dans l'imagination, quand même.
Ben, pour correspondre au récit.
Dans l'imaginaire.
Pour correspondre, en effet, au récit. Mais vu la personnalité, c'est un homme qui aimait le pouvoir et qui s'accrochait au pouvoir. Alors, il y a beaucoup d'hommes, évidemment, politiques comme ça dans le monde, pas simplement dans le passé, mais dans le présent. Et donc, il est prêt à utiliser tous les moyens. Donc, il est tout à fait probable que, apprenant que le futur roi des Juifs était né à Bethléem, à peu près à tel moment, il ait fait massacrer les enfants sans aucun remords et sans problème de conscience.
Et le massacre des innocents est circonscrit vraiment à Bethléem ou s'étend un petit peu plus loin dans la...
C'est une petite région. C'est une petite région. Ce qui nous fait avoir l'étendre volontiers, c'est que justement il a cité une prophétie et qui est une prophétie que j'appellerais englobante avec des noms, un nom d'un pays assez large. Mais dans la réalité, il est pas allé courir à Pétaouchnok.
Voilà. Vous êtes en train de dire que le massacre des innocents était annoncé dans une prophétie.
Il y a une prophétie qui est citée, Rama pleure, etc.
Ah oui, effectivement. Voilà. Oui. Bon.
Et donc ça a tendance à nous faire amplifier la chose. Mais je rappelle que pendant plusieurs siècles en Europe, les musulmans, les ottomans en l'occurrence, ont fait des razzias, des massacres et des razzias d'enfants pour devenir des janissaires et des mamelouks, dont on n'a pas le récit circonstancié, alors qu'on le sait très bien. Donc, à l'époque, si vous voulez, où on était quand même dans un monde extrêmement dangereux avec des soldats qui ne faisaient pas dans le détail, quand des soldats passaient, il y avait un terrain se planquer. 12 enfants qui auraient été tués, ça n'est pas répertorié parce que c'est anecdotique, je dirais, par rapport à la vie où, encore une fois, on dit que lorsqu'en 70, les armées de Titus ont fait le siège de Rome, etc., 1 million de Juifs sont morts.
De Jérusalem.
De Jérusalem. Donc 1 million de Juifs sont morts. Voilà, ça c'est rapporté par le juge Josès. Mais bon, 10 enfants qui sont tués dans un coin sombre. Au fond.
Mais pour vous, c'est une dizaine d'enfants.
Oui, a priori.
Des enfants depuis la naissance jusqu'à 2 ans. Voilà. Donc il y en avait peut-être un petit peu plus.
Un peu plus que 10. La fécondité était plus importante.
Déjà.
Voilà, et puis à quel moment cela se situe-t-il? Parce que, encore une fois, au moment de la naissance, au pur moment de la naissance. Donc, il y a effectivement beaucoup de gens qui sont à Bethléem parce qu'il y a le grand recensement. Mais très probablement, les mages sont venus un certain temps après. Et donc, les gens étaient déjà repartis. Le village de Bethléem, il y avait combien ? Il y avait, c'est des villages où il y a 50 personnes, 100 personnes. C'est pas non plus des grandes villes. Hein. Donc, avec ça, le nombre d'enfants, c'est pas non plus, si vous voulez, des centaines de milliers. Il faut être dans la réalité.
Très bien, merci Monsieur Abbé-Seyé. Pardon, Père Thomas, vous vouliez parler ?
Oui, simplement pour le recensement, on ne peut pas utiliser en fait la preuve du recensement, puisque le grand recensement, il est en 8 après Jésus-Christ. Mais en revanche, on est persuadé qu'il y a un recensement qui commence bien avant, parce qu'on ne fait pas le recensement de tout l'Empire romain en l'espace d'un jour. Donc c'était le pré-recensement à Bethléem. Donc il y avait peut-être moins de monde qu'on ne le pense, même si, évidemment, toutes les auberges étaient prises. Voilà, mais bon, Bethléem, c'était une toute petite bourgade, voilà. Donc c'était pas Paris ou Lourdes.
Oui, le récit dit, il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge, donc il y avait une seule auberge pour la
Le massacre des innocents, à mon avis, prouve au moins que Hérode, sur la naissance du Christ, il n'a pas dit « apportez-moi des preuves » ou « d'où vous tirez ça ?» Il a dit « c'est crédible, on y va, quoi. Il n'a pas pris de risque, il y a cru. »
Tuer les tous et Dieu
reconnaîtra les siens.
Pour terminer cette émission, juste donc à une semaine de un peu plus de Noël, est-ce que vous avez des vœux à adresser, des vœux de Noël, hein, pas de nouvelle année, mais des vœux de Noël à adresser à ceux qui nous regardent ou à ceux qui nous écoutent en podcast. Père Thomas.
Ben, mon vœu sera simplement celui de grandir dans la contemplation, puisque pour moi, Noël, c'est vraiment la fête qui nous conduit à la contemplation du mystère de l'incarnation et évidemment de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est se mettre à l'école de la, crèche.
À l'école de la crèche. Monsieur l'abbé Cellier.
Mais je dirais à ceux qui nous écoutent d'aller à l'église, le jour de Noël, tout simplement, et d'aller à la fois à la crèche pour se préparer, se disposer, méditer, avoir cette image, soit avant, soit après, et ensuite d'aller à la messe, qui n'est pas seulement l'image, le souvenir, mais qui est la réalité de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. L'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ se renouvelle et se poursuit sur nos autels. Donc qu'ils aillent se préparer, se disposer par la vision de la crèche, par la méditation devant la crèche, et qu'ils aillent ensuite à la messe pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, qui renouvelle sa naissance.
Cher Olivier.
Eh bien, moi, je ferai comme veut la sobriété de savoir oublier l'aspect trop festif pour savoir ce qu'est le sens de cette fête et ne pas oublier que c'est l'incarnation, comme dirait Marie-Noël, de l'amour et que c'est ça le plus important dans ce jour.
Et nous terminons par
à côté
Jeanne
de la
Smith.
Sobriété, je suis d'accord avec vous, Olivier Figueras. Mais il me semble aussi que pour les enfants, le rêve de Noël, c'est aussi un rêve d'enfance. C'est quelque chose qui remplit l'imaginaire de tendresse, de beauté, où l'on voit cette espèce, ce que Chesterton appelait le triangle inversé. Avant, l'enfant n'était que était une espèce de sous-produit qui devait parvenir à l'âge adulte avec la Sainte Famille, avec Marie et Joseph qui contemplent l'enfant Dieu. On renverse toute la logique de l'histoire. Et il me semble que c'est ça qu'il faut graver dans les cœurs. Et moi, je viens d'une tradition familiale néerlandaise où on n'a pas de cadeaux à Noël. On les a pour le 6 décembre, pour la Saint-Nicolas. J'ai été choquée, personnellement, par la débauche de cadeaux le jour de Noël. Pour moi, ça a un sens, certes, mais ça efface un petit peu le sens profond de Noël. Je ne vais pas demander aux Français de changer cela, mais de bien caser les choses à leur place.
Merci beaucoup à tous. Donc, un excellent et très joyeux Noël, avec ou sans cadeaux pour le coup, mais en assistant à la Sainte Messe, bien sûr. Nous nous retrouvons l'année prochaine pour une nouvelle année du Club des Hommes en Noir. Continuité de cette saison 2022-2023. D'ici là, évidemment, que Dieu nous garde. Au revoir.